C'est quoi le début que vous faites d'habitude? Je vous écoute pas assez pour ça. Bonsoir, je ne sais pas où vous êtes. Voici un nouvel épisode de Serial Causeur. Est-ce que c'est bien le titre de ce podcast? Absolument. Aujourd'hui, on est en présence de, par ordre alphabétique, parce que je suis stricte comme ça, Alan du Journal du Geek. Coucou Alan.
Bonjour, bonsoir.
Ensuite, est-ce que je connais mon alphabet? Oui, absolument. LMM, Marina de Melty.
Bonsoir.
Ensuite, on a Maxime de Criticoé et de Perdusa, bien sûr.
Salut.
Enfin, Stéphane des plus mathématiques.
Salut.
Et à qui? De l'internet, toujours.
La fameuse.
Voilà. J'espère qu'il y en a qu'une. Hein, mais bon. Et aujourd'hui, on va vous parler des maladies mentales dans les séries télé. Et notamment, on va se concentrer autour de 6 séries. Donc, on va parler de United States of Terror, Crazy Ex-Girlfriend, BoJack Horseman, Mr. Robot et Atypical.
C'est pas mal. United States of Terror, BoJack Horseman.
Merci, merci pour la traduction.
Pardon, je n'ai pas d'accent anglais, ce n'est pas vrai. Donc voilà, on va peut-être commençons par la série la plus ancienne, donc United States of Terror. Maxime, vas-y, si tu veux bien commencer par un petit pitch de la série.
Ouais, alors United States of Tara, c'est fait autour de Toni Collette. Toni Collette qui incarne donc Tara, une mère de famille qui subit des troubles de dissociation de la personne. Et en fait, elle développe 3 ou 4 personnalités différentes, je crois.
Même un peu plus au cours de la série.
Au cours de la série, oui, il y en a plus. Et on voit un peu l'impact que ça a sur sa vie et sur sa famille qui est un peu déglinguée, il faut dire.
Voilà, je pense qu'à l'époque de United States of Tara, pardon, il n'y avait pas tant de séries autour des maladies mentales que ça. Donc, même si c'était traité du côté comique, sous un aspect comique, c'était vraiment sympa à regarder. Puis Toni Collette, oui. Quoi.
Toni Collette, enfin, elle était quand même exceptionnelle dans la série. Je me rappelle, il y avait un camionneur, il y avait il y avait pas une prostituée aussi, un truc comme ça, je crois.
Il y avait une ado, une mère de famille, ouais.
Une espèce de brivante de camp.
Tout à fait.
Il y avait un écureuil aussi. Il y avait un écureuil.
Oui, c'est vrai, mon Dieu. Ah, ça, c'est vachement intéressant, du coup. Ah. Enfin, je veux dire, le comportement, etc., la gestuelle, c'était pas mal, ça. Ah, c'était quand même, enfin, c'est un peu pas ridicule, mon Dieu, voilà, problématique, voilà, ça commence. Non, ce n'était pas ridicule, c'était un peu absurde d'avoir une personnalité écureuil quand même.
Ah, je ne me rappelle plus, moi, de la personnalité écureuil, mon Dieu.
Elle reste pas longtemps, ça reste pas longtemps, mais ça montre, ça arrive à un moment où elle pète totalement un plomb et elle refoule plein de choses et ça faisait un peu, je retourne à l'état animal, enfin, je sais pas, c'était... Je trouvais ça intéressant à l'époque.
Je pense qu'il est toujours, hein, franchement.
Oui.
Oui.
Parce que c'est pas un sujet qu'on voit beaucoup et surtout encore moins quand elle régresse à ce point-là, une personne régresse à ce point-là, quoi.
Et c'était d'autant plus intéressant que, par exemple, dans Split de Shyamalan au cinéma, ouais. Je sais pas, le fait de voir ça sur la longueur, sur le temps d'une vie de famille, d'une femme. Qui vieillit aussi, donc enfin je trouvais ça beaucoup plus intéressant que un ramassis de
clichés en 2 heures.
Bon, ouais, c'est ça.
Moi, j'étais fan de Toni Collette et elle m'avait impressionnée parce que on voyait maintenant, depuis, il y a eu d'autres actrices dans un autre registre, par exemple Tatiana Maslany, voilà, oui. Qui a fait plusieurs, mais à l'époque, ça ne se voyait pas du tout parce que c'était 2009, c'était il y a 10 ans, donc le paysage. Comment dire, télévisuel n'était pas du tout le même. Et moi, je m'en rappelle, mais avoir été bluffée épisode après épisode par la prestation de Toni Collette, qui pour moi était incroyable parce que, comme tu disais tout à l'heure, je me rappelle plus de l'écureuil, mais moi, je me rappelle le chauffeur routier ou quoi, elle aurait pu être 150 000 fois ridicule. Ridicule, et elle l'a jamais été, parce que je pense qu'effectivement, Là encore, c'est tout est question de casting. Et moi, bon, alors la série n'a duré que 2 saisons parce que je pense que c'était peut-être
trois. Oui. Il me semble aussi. Oui,
oui. Oui.
Alors attends, je regarde.
Peut-être que c'est pour ça que tu n'as pas vu l'écureuil parce que tu étais peut-être
parce qu'il y a, en plus, il y a les Divisards dans la saison 3.
Et coup, non, mais parce que vous êtes sûr 2009, ah ben oui. 2000, c'était de 2009 à 2011. Alors attends, oui, Wikipédia.
2009, 2010, 2011, 3.
Ah ouais, j'étais sûre qu'il y en avait eu que deux. Bon, bref. Et du coup, moi, je me rappelle, c'était… En plus, il y avait Diablo Cody qui, à l'époque, était vraiment la scénariste un peu à la mode et tout.
Ah, oui. Elle était catégorisée un peu comme indé encore.
Ouais.
Selon Soloway ou d'autres qui sont chez Amazon.
Ouais, ouais.
C'est encore indé. Hein. Enfin, on peut pas dire que c'est mainstream. Je suppose que ce que des gens peuvent regretter pour la série, c'est que les différentes personnalités soient hyper stéréotypées. Parce que comme tu disais, là, le camionneur ou encore l'abri Van de Kamp, ce sont des profils hyper caricaturaux, quoi.
Ah ouais, ouais, complètement. Mais c'est là où tout l'intérêt du casting, effectivement. Parce que, enfin, voilà, moi, Toni Collette, je trouve que c'est vraiment une actrice incroyable qui est complètement sous-estimée. Pas qui a été sous-estimée, mais qui est sous-estimée là. On la voit plus trop, alors que moi, je la trouve formidable. Et c'est vrai que peut-être que la série était trop ambitieuse. Enfin, je sais pas, parce que déjà, comme disait Maxime, c'est vrai qu'on ne voyait pas trop ces problèmes-là, un peu mentaux. Enfin, c'était vraiment près toutes les séries qu'on va évoquer après. C'était bien avant tout ça. Donc, c'est vrai que c'était quand même très, très ambitieux. Il fallait quand même que le public accroche, y croit. Mais c'est vrai que… Et en plus, il y avait Brie Larson, ce qui est une gâche.
Oui,
parce que
moi, Princesse Unicorn.
Ah, oui. Là.
Voilà, Valhalla, Princesse Valhalla.
Oui, Valhalla, pardon.
J'étais très fan. Hein. C'est là où j'ai découvert Brie Larson. Bon, bref. Et du coup, je trouvais que voilà, le casting, John Corbett et tout, avec la patte Diablo Cody, peut-être, elle aurait peut-être mérité. Enfin, moi, la dernière saison, apparemment, je ne l'ai pas vue, du coup. Mais ça se termine comment, du coup? Il y a une fin ou pas du tout?
Je ne m'en rappelle plus. Voilà.
Ouais. Non, mais je pense qu'ils sont arrivés à conclure plus ou moins certaines choses, hein, parce qu'ils savaient que ça ne marchait pas forcément, que la saison 3 ça était un peu de mal à être renouvelée, et la dernière, ouais. Je crois qu'ils ont plus ou moins conclu ce qu'ils pouvaient, hein, parce qu'après…
Ouais, bon, voilà. Tu vois, après, effectivement, à voir si c'était une série qui pouvait durer sur la longueur ou pas, je ne sais pas, tu vois, parce que même Orphan Black, qui était une très bonne série, bon, elle s'est quand même très essoufflée sur la fin.
À partir de la saison 3, ça descend, Orphan Black. Où ouais. Ils n'ont plus impressionné par le travail de Maslany. Donc,
oui.
Derrière, ils n'avaient pas de quoi continuer.
À l'époque, c'était quand même très inédit. Et déjà, le fait qu'elle ait duré 3 saisons, c'est même plutôt pas mal, tu vois, mais a posteriori. Mais moi, je pense qu'effectivement, tout le crédit et la qualité revient quand même beaucoup, beaucoup au talent d'actrice de Toni Collette, quoi, quand même.
Ah oui, absolument.
Tout à fait d'accord.
Ce qui est aussi pas mal, c'est que cette série-là, elle est assez, elle repose beaucoup sur la famille, donc ouais. Les deux gosses, le mari, etc. Petite transition sur Atypical. Quelqu'un peut, bon, je pense que beaucoup de gens ont dû en entendre parler parce que c'est sur Netflix et j'ai l'impression que les gens n'entendent parler des séries que lorsqu'elles sont sur Netflix.
Ouais, ouais.
Bon, bah Alan, veux-tu pitcher la série, s'il te plaît?
Non, franchement, je ne saurais pas te pitcher la série, donc je laisse Stéphane.
Ah bon, bah Stéphane, ah.
C'est la vie de Sam, un jeune autiste de 16 ans et de sa famille.
Voilà en fait, j'aurais pu le faire, du coup.
Parfait.
Bah, si, ça suit la vie du jeune autiste alors qu'il est en train de conclure son lycée. Oui, lycée, plus ou moins.
Oui.
Et voilà, et de sa vie de tous les jours, de ses sessions de thérapie, comment il traite il gère son autisme et comment il le vit vis-à-vis des autres.
Et je pense que ce qui est très bien fait dans cette série, c'est vraiment comment sa famille le réagit, en fait. Bon, pour le coup, ils ont dû vivre avec sa maladie toute leur vie, quoi. Enfin, toute la vie de Sam, plutôt. Et donc, je suppose qu'il y a une sorte d'habitude, mais leur adaptabilité et même leur émotion, je trouve vraiment ça C'est beau à voir, quoi.
Et ce qui est intéressant, surtout, c'est que ça traite de l'autisme d'une manière qu'on, un peu inédite, dans le sens que, si je peux comparer, par exemple, un peu à The Good Doctor, là où il reste dans la profession, là, ça parle de sexualité. Et c'est vrai que c'est un peu le sujet. Déjà, la sexualité, est toujours, j'ai toujours un peu l'impression qu'elle est un sujet un petit peu tabou chez les personnes atteintes de troubles. Oui. Mais là, du coup, ça abordé quand même de plein front. Et je trouve ça très intéressant et assez pertinent dans la manière.
Ça va avec le côté adolescent. Ado. Et il y a beaucoup d'autres séries, peut-être pas beaucoup d'autres, mais je pense notamment à une autre série dont le héros est autiste, The A-World, une série anglaise pour le coup. C'est un peu différent parce que c'est un gamin plus jeune, mais c'est aussi, on comprend un petit peu, on rentre un peu dans tout ce qui est le spectre de l'autisme, etc.
Parce que comme j'ai pas vu The A-World, est-ce que le personnage qui est autiste dans la série est joué par un acteur qui est autiste ?
Alors, je crois que non. J'avais vérifié à l'époque.
Ah ouais. C'est pareil dans Atypical, quoi. Le personnage, enfin, l'acteur ne l'est pas.
Qui jouait dans United States of Stara, non ?
Aussi, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs. Oui.
Oui, c'est vrai.
Oui,
ouais.
C'est vrai.
Et oui, ils ont essayé, parce qu'ils se sont un peu fait reprocher ça, d'ailleurs, de ne pas avoir pris un acteur autiste pour le coup. Et c'est pour ça que dans la saison 2, ils ont introduit tout un. Sam va rejoindre des étudiants autistes qui sont aussi dans le même cas que lui, qui sont sur le point de partir à l'université. Et c'est ça qui était plutôt intéressant. Et d'ailleurs, c'était même très émouvant de voir des acteurs parler de sujets qui les concernent vraiment pour le coup. Et il y avait un problème de représentativité de la maladie avec l'acteur qui joue Sam, quoi. C'est, pour le coup, c'est assez dérangeant, je trouve.
Dans une période,
dans une période où c'est quand on parle de représentativité partout à la télévision, de glorifier un peu cette série qui parle de l'autisme avec un acteur qui n'est pas autiste, c'est un peu compliqué aussi, quoi.
Voilà. Justement, en y réfléchissant, il y a très peu d'autistes à la télé dans des rôles secondaires ou principaux. Si je me souviens bien, il n'y a que celui qui joue Max dans Parenthood qui l'est.
Il l'est
aussi. Il l'est pas.
Non. Donc, il n'y en a pas du tout.
Moi aussi, j'avais eu le doute, mais après, je crois que je l'avais vu dans La Purge, et en fait, il ne l'est pas du tout. Hein.
Non, il n'est pas du tout. Non, il n'est pas. J'allais en parler d'ailleurs du syndrome d'Asperger, qui était. Alors, on reste dans la famille Parenthood, et moi, j'ai trouvé hyper intéressant parce que la mère, elle essaye vraiment de le normaliser au maximum, de le mettre dans une école entre guillemets normale. Il a du mal quand même à s'intégrer et j'ai trouvé ça, moi, hyper intéressant dans le sens où il a une grande sœur qui est parfaite, qui est très docile, bonne à l'école et tout. Et à un moment, moi, je me rappelle de cette scène où elle éclate parce qu'elle disait qu'elle se sentait invisible dans cette famille parce que tout était tourné autour de Max et à juste titre parce qu'effectivement, lui avait des. Et j'ai trouvé cette scène vraiment déchirante parce qu'effectivement, tu réalises que pour tous les parents s'obligeaient entre guillemets à s'accorder des moments juste avec elle et elle se sentait quand même fortement délaissée et j'avais trouvé cette scène vraiment prenante parce que tu réalises que effectivement la famille malgré toute sa bonne volonté de se dire on a d'autres enfants il faut qu'on fasse attention et tout l'attention est forcément beaucoup plus focalisée sur la personne autiste et vraiment j'avais trouvé
tu sais quoi Marina c'est exactement ce que traite Atypical.
Ah oui
absolument. Donc je te conseille vivement de la regarder honnêtement.
Je vais la regarder alors parce que moi vraiment ça m'avait ce que j'avais aimé c'est qu'à aucun moment tu vois il est victimisé quoi c'est qu'effectivement il a atteint du syndrome d'Asperger, mais à aucun moment, tu vois, sa famille le chouchoute forcément parce que malheureusement, il ne rentre pas dans une certaine norme. Mais,
oui, il s'adapte à ses besoins, en fait.
Préparant tout, fait pleurer de manière… c'est un peu le This Is Us de l'époque. Ouais. Mais moi, j'avais trouvé ça hyper intéressant.
C'est vrai. Après, tous ces personnages sont quand même des autistes assez fonctionnels. Donc, tous ces aspis, là, ils sont très fonctionnels. Donc, c'est pour ça aussi que The A-World, il est un petit peu différent parce que, pour le coup, il est plutôt dans le non fonctionnel, quoi. Enfin, c'est plus fort.
Après, les formes d'autisme sont souvent traitées dans plusieurs séries, parce que dans ce cas-là, si tu élargis le spectre, tu peux même pas en parler de The Big Bang Theory avec Sheldon qui en présente quand même énormément de symptômes.
Ah, mais il l'est. Il n'est pas.
C'est vrai. Il y a beaucoup de séries comme ça qui fonctionnent sur un peu personnage un peu à la marge.
On peut passer à peut-être un autre trouble, enfin une autre pathologie. Je vais juste demander pour BoJack Horseman, parce que BoJack, j'en entends aussi beaucoup parler, je ne l'ai jamais regardé.
Oh, blasphème.
Les deux filles, ça ne va pas être possible, par contre.
Les deux filles, tout de suite. Je dirais juste que je n'aime pas l'animation américaine. Voilà.
D'accord. J'ai regardé Carmen Sandiego, mais bon, après.
Écoute, c'est un dessin animé pour enfants, presque, d'accord. Tout ça pour dire BoJack, je pense que ça doit parler d'addiction et de dépression, mais éclairez-moi.
Alors, BoJack Horseman, si tu veux, c'est, pour petite histoire, c'est un ancien acteur qui est devenu totalement ringard maintenant. Et au-delà de la. Et en fait, pendant 5 saisons, on parle autant de sa dépression que sa tendance à l'autodestruction. Et ce qui était très intéressant, c'est que chaque saison, si la dépression est le fil rouge vraiment de la série, du personnage, chaque saison a mis le doigt sur une addiction particulière. Bon, voilà, sans spoiler, il y a eu peur, par exemple, la drogue, le manque d'affection, tout ça. Et je trouve que c'est traité avec énormément de justesse, parce que si tu veux, il y a autant d'humour que de drame. C'est vraiment, en fait, quand on commence la série, on voit pas du tout si c'est justement une série drôle ou si c'est une série dramatique. Et parce que justement, le principe, c'est ça, c'est que c'est totalement dans l'amertume. Voilà, c'est une série hyper acide, hyper amère. Et on rigole autant qu'on grince des dents. Et c'est vraiment une... Je trouve qu'en termes de justesse, de la dépression, pour avoir connu des gens qui en ont souffert, et moi aussi un petit peu, je trouve que c'est totalement juste, en fait.
J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il est... Alors, il est toujours en dépression et il recouvre... Enfin, recover. Et il se soigne sur ses autres addictions, ou alors, en fait, il est toujours un drogué?
En fait, non, il essaye toujours... En fait, il y a des moments où il va essayer de s'améliorer par des manières un peu détournées qui ne marchent plus ou moins, enfin, d'une autre manière. Mais non, je pense que c'est tout simplement un personnage qui essaye d'être heureux sans y parvenir. Tout ça parce que après il est aussi bourré de défauts. Hein. Il est égoïste, il est énormément, comme je disais, il est autodestructeur. Donc dès qu'il touche au bonheur, c'est comme s'il se punissait lui-même. Je pense qu'en fait c'est ça, c'est vraiment un personnage qui essaie de s'en sortir, mais qui fait aussi du mal, qui se fait du mal et qui fait du mal aussi aux gens qui l'entourent, en essayant parfois de faire du bien d'ailleurs.
Maxime, t'es d'accord là-dessus?
L'image qui me vient en tête quand je vois le parcours de BoJack Horseman et sa dépression, c'est un peu comme s'il essayait de mettre des pansements sur une fuite d'eau. Il essaye de devenir quelqu'un de bien, de faire le bien autour de lui, et il finit toujours par replonger encore plus bas que terre. Et chaque saison, oui, apporte son lot d'addictions. Et en fait, on a l'impression qu'il essaye de s'en débarrasser une à une, pour au final pas traiter le fond du problème. Après, la saison 5 arrive à un point de rupture où je pense que maintenant... ils vont devoir nous proposer autre chose.
Mais en même temps, pour le coup, moi, je me disais exactement la même chose de la saison 3. À la fin de la saison 3, on pensait qu'il allait pouvoir enfin commencer à sortir la tête de l'eau. C'était sans compter sur BoJack Horseman, qui, comme disait Alan, il est autodestructeur et qu'il arrive toujours à creuser un peu plus à chaque fois qu'il touche le fond, quoi. Mais en fait, le seul problème que j'ai... Est-ce que BoJack pourra un jour arriver à respirer, à sortir la tête de l'eau? C'est juste ça le truc. Et est-ce que c'est vraiment une finalité de la série aussi de montrer que on peut y arriver? Mais pour le coup, au bout de 5 saisons, je doute énormément de ça, quoi.
Mais c'est horrible, en fait.
C'est tellement désespéré, c'est tellement triste et tellement mélancolique que tout le monde, hein, parce que c'est pas que BoJack, il entraîne aussi dans sa chute un peu tous les autres personnages, mais c'est dur, parce que moi, honnêtement, je me demande si un jour il arrivera à être la personne qu'il rêve d'être, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est une série où il n'y a pas beaucoup de lumière au final. Enfin, il n'y a aucun des personnages qui peut vraiment rattraper les autres, où on se rend compte qu'ils ont des problèmes.
Le pire, c'est Diane qui l'entraîne avec lui dans sa chute. c'est la victime collatérale. La première, il sait qu'il en prend plein la gueule depuis 5 saisons, depuis qu'elle connaît BoJack, quoi. C'est un truc de malade.
Mais ce qui est très drôle, c'est que justement, en fait, ça joue beaucoup sur ceux qui, sur les personnages secondaires, parce que t'as ceux qui l'entraînent, et t'as sa némésis, du coup, Mr. Peanut Butter, qui lui, au contraire, est totalement l'inverse, qui est totalement toujours optimiste, et qui voit toujours la vie du bon côté, mais qui énerve aussi par ce côté-là, en fait.
Mais qui réussit pas plus que BoJack.
Ah non, mais c'est pas, mais par le coup, c'est totalement son, qui fait l'inverse, quoi. Mais après, là où on sait pas du tout où les scénaristes vont nous mener, tout ce que je sais, c'est que pour le coup, ils rivalisent toujours de l'ingéniosité pour renouveler le truc. Et pour moi, c'est une des, quand on parlait des séries Netflix, pour moi, c'est la série Netflix la mieux écrite qu'ils aient. Enfin, clairement,
je suis d'accord.
La saison 5, alors ça fait comme disais, ça fait déjà 5 saisons, mais la saison 5, elle brille encore d'ingéniosité, c'est assez dingue. Honnêtement, si je dois voir la fin de la série, je pense que. Je suis pas persuadé qu'il lui aille mieux un jour parce que c'est son comportement autodestructeur qui fait qu'il y arrivera certainement peut-être pas. Il y aura un truc qui fera que les personnages secondaires, eux, arriveront à sortir de ça. Peut-être par un geste de BoJack.
Et lui, par exemple, il peut. Enfin, ça parle, mais une fin où il se suicide, par exemple, ce serait possible voilà. Ou non la série, non, la série d'accord, ok, ouais.
En fait, je dirais même pas que c'est possible, je dirais que c'est le principe de la série. Puisque si on regarde le générique, tu vois le générique, en fait, c'est le générique, ouais. Lui-même se suicide. Le générique, c'est lui qui se suicide.
Donc, mais les gens dépressifs, ils vont pas regarder ça, en fait.
Mais c'est ça. Bah non.
Bah, en fait, en même temps, bah, en fait, si, parce que moi, je trouve que ça... Le fait que ce soit d'animation, que ce soit des personnages animomorphiques, voilà, c'est en même temps, c'est te montrer quelque chose de réel dans un monde imaginaire. Et en même temps, il y a toujours assez d'humour pour que tu sois pas totalement à chaque fois en train de te tailler les veines à chaque fin d'épisode.
C'est vrai qu'il y a un côté cathartique à voir un peu les malheurs.
Voilà. Vraiment, donc moi je sais qu'honnêtement, c'est assez non, moi au contraire, je trouve que c'est bête parce que je vais rapprocher ça de Thirsty Reason Why. On disait lors de la première saison que ben voilà le mal-être adolescent, c'est une série qui n'irait en parler et que c'était intéressant pour ceux qui souffraient de mal-être de voir la série. Pour moi, en tout cas, je trouve que BoJack, c'est pareil. C'est un côté où... parce que ce personnage est non seulement dépressif, mais il est vraiment bourré de défauts. Donc d'un côté, c'est une vision du dépressif poussée à l'extrême qui fait qu'en fait, en sortant de là, on a toujours envie de se dire aussi bah, peut-être que je suis dépressif, mais je suis toujours pas dans... Enfin, j'en suis quand même pas encore au niveau de BoJack, quoi.
Ouais, mais enfin, dans 13 Reasons Why, au moins ça finit au bout de 13 Reasons. Et là, ça continue encore après la cinquième saison, quoi. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit réconfortant.
Non, mais c'est qu'il a beaucoup de bagages à régler quand même. Hein.
Oui,
il le fait petit à petit, il s'en crée de nouveau, mais il arrive plus ou moins de temps en temps à revenir, à sortir de la tête de l'eau, à respirer avant de repartir vers le fond.
Parce
quoi,
que chaque hein. saison. Comme disait Max, chaque saison règle un problème. Donc en soi, chaque saison, tu peux pas dire que chaque saison finit hyper mal. Elle finit pas bien, mais il y a toujours une lueur d'espoir en fait à chaque fois.
Je trouve que la fin de la saison 3, c'est celle qui a levé la plus belle lueur. À la fin, tu te dis, ah, enfin, il va pouvoir faire quelque chose de sa vie, il va pouvoir enfin toucher le bonheur dont il espère, au moins la sérénité qu'il veut. Eh ben non.
Parce que c'est BoJack.
Il y a aussi un truc qui est super intelligent dans BoJack Horseman, c'est qu'ils arrivent à mêler sa dépression et son mode de vie autodestructeur à un propos sur la société aussi. Ça se voit beaucoup en saison 5 où ils s'attaquent à Me Too.
Oui.
Et ils s'y attaquent d'une force comme une cocotte minute qui explose à la fin de la saison avec BoJack justement. Et je trouvais ça super intelligent de remettre en cause le modèle de l'homme blanc, parce que BoJack est
un homme blanc,
un homme blanc de 50 ans, et mettre son personnage principal dans l'affaire Me Too, et que ça explose à ce point-là. Parce que je ne sais pas si on a trop le droit de spoiler, mais...
Il n'y a personne qui regarde à part nous.
Voilà, arrivé là, quand il étrangle
sa partenaire
de jeu dans le film qui tourne, on s'y attend pas. On sait qu'il a tout ça en lui, qu'il a cette dépression, cette colère, cette addiction, mais on s'attend pas à ce qu'il aille jusque-là. Et c'est là où la série est super dépressive et arrive à parler de la société d'aujourd'hui. Et donc, ça permet aussi de renouveler le propos à chaque saison et de nous faire revenir.
Surtout qu'il y a cette... Pour moi, c'est BoJack, c'est vraiment l'art et la manière, parce qu'il y a ce qui se dit... Et comme tu dis, bah justement, avec l'exemple de l'étranglement, il y a ce qui se montre. Parce que sans, voilà, là, du coup, je vais rester vague, mais dans saison 5, il y a quand même un épisode où il règle le problème avec sa mère sur un monologue de 20 minutes. Et c'est dingue, parce qu'en fait, sur le coup, on s'y attend pas. Et la mise en scène et la façon dont c'est fait, tu sors d'épisode, tu fais mais waouh, vraiment waouh, quoi. Parce que tu, à aucun moment, et je pense pour n'importe quelle série, tu peux te dire un monologue de 20 minutes peut tenir. Et ben Bojack, ils l'ont fait et ça tient. C'est dingue.
Tout ce que vous me dites, je veux bien reconnaître la brillance, enfin le génie de Bojack Horseman, mais le fait que ça ne soit pas positif, je suppose que ça me bloque énormément.
C'est ce que je te dis encore une fois, il y a quand même assez d'humour pour tu rigoles. Je veux dire, pour comparer, c'est pas Rémi sans famille qui taille les veines à chaque fin d'épisode. Là, il y a quand même toujours un cynisme. Après, voilà, c'est de l'humour cynique. Mais
il faut regarder aussi pour la critique d'Hollywood que ça peine en 5 saisons, hein, parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Hein.
Et avec Margot Martindale, character actress.
Ah oui, elle est exceptionnelle.
Petite transition vers Crazy Ex-Girlfriend. Je dirais, pour le coup, c'est, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que tu prends la maladie de A à Z, ou du moins tu... On te présente le personnage. Pardon Stéphane, tu veux bien pitcher la série s'il te plaît, même si je pense que tout le monde devrait connaître Crazy Ex-Girlfriend.
Tiens, j'ai oublié comment elle s'appelle déjà. Ah, Rachel. Non, c'est Rachel Bloom, c'est merde, c'est l'actrice. Attendez, j'ai 5 épisodes de retard, alors c'est pour dire. C'est Rebecca, une avocate qui déménage de New York à Los Angeles, enfin à West Covina, pour retrouver un amour d'enfance. Parce qu'elle a un petit problème, tu vois, elle est un peu crazy, comme dit le titre de la série. En effet, pendant toute la première saison, enfin pendant même plus que la première saison, même les deux premières, on va se rendre compte qu'en effet, elle a des petits problèmes mentaux, sans pouvoir mettre le doigt vraiment sur ce qu'elle a. Et ça, il faudra attendre la saison 3 pour qu'on le sache. Voilà.
Ce qui est pas mal, c'est qu'on te présente déjà le personnage de Rebecca sans cacher qu'elle a des soucis psychologiques, puisqu'on dit qu'elle prend des médicaments dès le début, qu'elle arrête d'ailleurs.
C'était pour des problèmes de... Mais tu as envoyé un psy, donc le psy la mettait sous cachet, quoi, comme un anxiolytique ou
antidépresseur.
Voilà. C'est juste des trucs normaux, mais sauf que ça, là aussi, en fait, la série va prouver que une maladie mentale, c'est dur à diagnostiquer. Voilà.
Ouais. Et que le diagnostic n'est pas, en fait, la solution miracle non plus, parce que on peut te dire, oui, donc tu as un trouble de la personnalité borderline en fait, que t'es guéri, pas du tout. T'as encore un travail derrière après.
Il suffit pas de prendre un cachet comme nous le montre toute la saison 3 d'ailleurs.
C'est vrai.
Et vous pouvez pas dire qu'est-ce qu'elle a, non ? Ça va, c'est spoiler.
On vient de le dire là, un trouble de la personnalité borderline.
Ah, c'est ça, trouble de la. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était. D'accord.
Ça
veut dire quoi en fait, trouble de la personnalité borderline ?
En gros, ça veut dire qu'elle a beaucoup d'impulsions. C'est un peu comme de la bipolarité, mais pas exactement, on va dire. Donc oui, c'est ça. C'est qu'elle a vraiment des impulsions un peu contrariantes, on va dire. Pas toujours un peu excessives. Donc elle peut se focaliser, obséder sur un sujet. Donc en l'occurrence, dans la saison 1, son amour d'enfance. Voilà, Josh. Ou ça peut aussi passer... Elle peut passer à l'acte, des actes un peu... violent ou absurde. C'est des compulsions qu'elle ne peut pas contrôler, quoi.
D'accord.
Mais après, il y a aussi tout le côté, tout d'un coup, elle est comme la bipolarité, pour le coup, tout d'un coup, elle va être très heureuse et le lendemain, elle va être complètement dépressive.
D'accord.
Je crois que le truc le plus intéressant, pour le coup, d'ailleurs, je crois qu'on va être à peu près tous d'accord, c'est qu'on a tous à peu près râlé sur ça. Oh, j'ai oublié le nom de sa copine, non, mais je vous jure, mais... Merci.
Paula,
oui. Paula, pardon, j'étais en train de réfléchir. Oui, sur Paula qui, pendant les premières saisons, ne voit rien, ne veut rien entendre. Et c'est surtout parce que Rebecca, tu vois, c'est sa nouvelle copine. Et puis, en fait, et qui, au bout d'un moment, quand même, arrive à comprendre que le comportement de Rebecca. Mais c'est dur, hein, franchement. C'est pour dire à quel point j'aime pas la saison 4. Le comportement de Rebecca est assez problématique. Et je trouve que le cheminement de Paula est plus ou moins intéressant, même s'il a été trop long, à mon avis, pour la propre, notre propre sanité, nous, en tant que spectateurs, parce que moi, j'ai gueulé sur mon écran souvent. Je trouve que c'est ce qu'a réussi le mieux la série, avec après la découverte du diagnostic et de la façon dont la saison 3 gère ce problème-là, le problème de Rebecca.
Mais tu dis ça, pourtant, si dans ma vie, dans ma vraie vie, dans la réalité, je venais de faire connaissance, je viens de faire connaissance avec quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, je suis pas sûre que je le décèlerai tout de suite, hein.
D'accord, mais sauf que là, elle l'a quand même entraîné dans des trucs qui sont un peu, enfin, un peu, même beaucoup excessifs. Donc, au bout d'un moment, il aurait fallu se poser des questions. Et je sais que Paula s'ennuyait dans sa vie, c'était pas une raison pourtant pour aller cambrioler des gens et planter des boîtes de caca en mettant le feu dessus ou envoyer du caca, je sais plus, par la poste. Voilà, enfin,
Ça n'engage que toi.
elle est
voilà.
passionnelle.
Mais oui, elle a beau être passionnelle, sauf qu'à ce moment donné-là, on aurait pu aussi mettre en cause l'équilibre mental de Paula, quoi.
Mais parlons de la dernière saison, là, encore un autre, autour de la maladie mentale, un autre sujet qu'ils ont pas mal traité, c'est le fait de prendre des médicaments et tout ce qui est, du coup, t'es pas à jour, mais bon, ça, c'est un spoiler, le fait de suivre un traitement médicament. Oui, enfin, c'est pas la fin du monde non plus, en fait. C'est juste une béquille pour t'aider à aller mieux aussi.
Ouais, mais
Voilà.
justement, sur la saison 4, ça arrive dans le dernier épisode. Avant, on s'est tapé 12 épisodes de vide où il y a quand même un trou scénaristique qui fait que le message des médicaments, il apparaît un peu trop.
Oui, parce que je suis en train de me dire, c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler de médicaments, mais d'accord, si c'est dans le dernier,
Ouais,
je peux
c'est dans le
comprendre.
dernier.
En effet, c'est largement trop tard pour que ça aide le personnage de Rebecca à sortir la tête de l'eau aussi, quoi.
C'est dommage parce que l'épisode est top en soi. C'est le dernier épisode, pour moi, c'est le meilleur de la saison. Enfin voilà, là, il y a ce trou qui fait que maintenant elle prend des médicaments. Ça apparaît aussi à un pansement pour les scénaristes en se disant, bon, on va enfin traiter de la dernière partie, on a assez délayé le truc, on peut y aller. C'est dommage.
Je suis un peu, je vous trouve dur par rapport à cette saison. Alors c'est vrai que je la trouve également en deçà, mais tout, bon ça c'est un petit peu hors sujet, mais tout l'arc autour de, oh mon Dieu, j'ai un trou de mémoire aussi sur les noms.
Vous
D'accord,
avez
je suis
oublié
Skylar Astin.
cette série, non? Un peu, non?
Oui, Skylar Astin. Greg,
Greg,
pardon,
putain.
Greg. Ouais. Tout l'arc autour de Greg, enfin moi je l'ai trouvé plutôt pas mal, hein.
Il est
Voilà.
pas mal, mais enfin, ça remplit pas tout un épisode. Enfin, à côté, il y a vraiment strictement rien.
Non, ouais,
Mais après,
clairement.
il y a Rebecca qui commence à prendre soin d'elle et c'est le premier pas vers l'amour de soi, l'amour des autres. Voilà.
Ouais.
Je
Oui, mais,
vous
sauf
sens.
qu'après, ça fait pas une série, quoi. Enfin, les scénaristes, il aurait fallu qu'elles se mettent d'accord, qu'elles nous proposent des choses à voir aussi, hein. Et puis, en termes de chansons, la série nous
Oui.
avait. Alors, ça, c'est un aparté,
Non,
mais
je sais. Non, je suis d'accord.
nous avait habitués à beaucoup de choses. Là, c'est le calme plat, t'as à peine une chanson que t'arrives même pas à retenir les paroles ou même pas l'air. Et puis, il s'est passé. Enfin, moi, j'en ai vu 11 au final. Non, 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 8. C'est raté. Point.
Il y a
Voilà,
même
tout
moins de
ce qu'il en
chansons qu'avant, ça c'est mon gros.
dit. Mais
Voilà.
pour le coup, le dernier épisode, les chansons sont cool et celle sur les médicaments, la prise de médicaments, ressemble beaucoup à celle de son diagnostic.
Oui,
Et
c'est
c'était vraiment
vrai.
pas mal.
En plus, bah, pour le coup, c'est le côté positif et vraiment, tu peux t'en sortir, le message derrière qui me plaît plus. Après, ça reste une série de la CW, un peu
Mais
une
qui
folie.
peut être quand même dark parce qu'en
Ah
saison 3,
oui.
la scène dans l'avion. Encore une fois, c'est spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais où elle fait une tentative de suicide et elle se rattrape au dernier moment, elle est quand même ultra dark.
Oui, appel à l'aide, clairement.
Ouais.
C'est même plus qu'un appel à l'aide, hein, mais bon, après.
Voilà. On va finir par une série que juste Stéphane et moi avons vue, mais c'était le but en fait de ce podcast, de
Ah merde.
promouvoir une nouvelle série.
On parle pas de Mister Robot?
Ah, excusez-moi, j'ai oublié Mister Robot tellement, voilà, tellement Rami Malek en ce moment. Bref, on va parler de Mister Robot. Quel est son trouble à ce
Il a
Mister
des
Robot, ce
troubles
acteur?
dissociatifs de la personnalité.
Ah, comme Tara.
Comme Tara. Mais sauf que là, enfin, il l'utilise de manière un peu plus. Enfin, j'allais dire un peu plus intelligente. Pardon, non. Différente, parce qu'il s'en sert pour aussi écrire la narration. Donc c'est assez particulier. Sam Esmail, il utilise la maladie de son personnage principal pour nous faire douter.
Est-ce que
Tout
bah
simplement. De
justement,
tout ce
est-ce que vous
qu'on
l'aviez
voit, de tout ce
deviné?
qu'on entend et de tout ce.
Non,
Hein?
moi je l'avais pas. Moi je l'avais pas du tout. Quand ils ont fait la révélation à la première saison, ça m'a complètement. Moi ça m'a. Oh, mais pas une seconde. Enfin, je me rappelle la scène où on peut dire une scène. C'est la saison 1, non?
Oui. Oui.
Où il va pour embrasser sa sœur. Enfin, comment c'est le personnage qui
Darlene.
s'avère être Darlie. Et il lui dit, bah non, tu m'embrasses pas, je suis ta sœur. Oh, mais qu'est-ce? Et ça m'avait tellement scotché. Moi, j'avais été fan. Et alors, bizarrement, moi, je l'avais conseillé à plein de gens et il y a énormément de gens qui n'ont pas du tout accroché à ça parce qu'ils se sont sentis…
manipulés, trahis, oui, absolument.
Exactement, ils ont dit « Ah, mais c'est ça !» Enfin, vraiment, mais c'était violent même leur réaction parce qu'ils me disaient bah, « que c'est quoi cette série Attends, tout ça pour ça et tout. » Alors que moi, ça m'a fait l'effet inverse. J'étais complètement scotchée en me disant « Oh, qu'est-ce que c'est intelligent et tout !» Et les gens… plusieurs amis à moi qui habituellement on a les mêmes goûts en série, là vraiment ils ont eu une réaction de rejet complètement, mais et c'est pas un mot vraiment choisi au hasard où ils ont dit bah non mais nous enfin on n'a pas signé pour ça limite quoi, et moi je me suis dit ah bon, mais moi au contraire j'ai trouvé ça très intelligent pour le coup, tu vois, mais bon
on sait si les audiences ont beaucoup descendues entre la saison 1 et la saison 2 justement.
Bah alors moi je fais partie des gens qui ont lâché, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai un peu réagi comme la catégorie que tu décris, la Marina. Donc oui.
Ah ouais, tu t'es sentie manipulée entre guillemets.
Bah prise pour une idiote quoi, oui.
Ah ouais, tu vois, c'est fou ça.
J'aime bien comment dire. Tu vois, c'est fou ça.
Non, mais parce que je trouve ça fascinant. Mais c'est pas moi, je l'avais pas vu venir et ça m'a fait un truc genre un. Dans une moindre mesure, mais un peu genre comme à la sixième sens, au sixième sens, genre un twist où je me dis, oh, punaise, tu vois, j'avais même envie de revenir voir les épisodes en disant, est-ce qu'il n'y avait pas des indices, tu vois, qui m'ont échappé et tout, parce que je trouvais ça incroyable. Moi, il y a vraiment, enfin, je pense que je suis la seule mais de mes amis, et ils ont tous réagi comme toi, qui en mode, bah non, ça l'a pas fait, quoi, tu vois, et ils ont lâché la série, mais violemment, oui. Tu vois.
Est-ce que le trouble de la personnalité est vraiment plus traité après? Parce que comme tu dis, dans la saison 1, ok, il est parano, enfin, comme le cliché de l'acteur.
Il va, enfin, bon, on va pas tout le monde, mais en fait, du coup, comme il en est conscient, il va aller voir une psy, il va essayer de prendre des médicaments. Pour lui, c'est pour rapprocher ça de Dexter. Et pour lui, il considère vraiment ça comme du coup un dark passenger qui en plus fait des actions que lui ne défend pas. Pour le coup, quand Stéphane disait que c'était un ressort scénaristique, c'est parce que tout simplement, il y a vraiment une confrontation entre ces deux personnalités qui ne sont pas du tout d'accord entre elles en fait. Donc chacune va essayer de prendre le pas sur l'autre.
C'est pour ça que la prochaine saison fait bien d'être la dernière, parce qu'au final... À la fin de la saison 3, si on comprend bien, il accepte enfin de coopérer avec sa personnalité et tu te dis qu'ils vont former plus qu'un. Quoi. Pour le coup, dans le traitement de la maladie mentale, je trouve ça dommage parce que c'est instrumentalisé vraiment dans la narration. Je ne sais pas si je suis clair, mais on ne traite pas vraiment du problème de la personne, on l'utilise. Non,
voilà, c'est surtout sur la forme que plus que sur le fond, quoi. De toute façon, ça reste, Mr. Robot reste un thriller et ça restera un thriller, quoi qu'il en soit. Et la maladie, c'est vraiment un véhicule pour l'aider à raconter son histoire, quoi. Sam Esmaeil. Après, je suis pas sûr qu'il s'en préoccupe tant que ça, quoi.
C'est un peu la Homeland, si je puis me permettre.
C'est voilà.
Ce qui est un petit peu dommage, du coup, avec une telle occasion, quoi.
Mais ça reste quand même plus subtil que The Homeland. Que Homeland.
Ok.
Mais alors après, par contre, on ne peut pas reprocher à la série de vouloir de se servir de la maladie de cette façon-là, parce que c'est quand même l'une des maladies mentales qui a été le plus traitée, que ce soit dans les séries ou dans les films, quoi. Le trouble dissociatif de la personnalité.
Oui, schizophrénie. Voilà. Schizophrène ou pas, oui.
Est-ce qu'il est schizophrénique? Est-ce que c'est les troubles dissociatifs de la personnalité?
Oui, aussi, ouais. Voilà. Oui.
Pour le coup, il l'a utilisé d'une autre façon, et c'est juste ça qu'on retiendra vraiment de la, je crois qu'au final de Mr. Robot, quoi, plus que du traitement de la maladie en elle-même, quoi, comme l'a pu le faire United States of Star.
Oui, c'était pas une série sur la maladie, comme les autres séries dont on a pu parler. Après, quand Stéphane dit que c'est une des maladies peut-être les plus traitées, je suis d'accord, et en même temps je me dis que la sociopathie est quand même vachement traitée aussi dans les séries, oui. Parce que je parlais de Dexter, je parlais de même récemment t'as You, enfin t'en as quand même pas mal aussi, ouais. Qui s'amusent là-dessus, quoi.
Surtout pour les thrillers du coup,
oui, ça parce que ça reste un ressort magnifique pour un thriller, hein. Que ce soit le trouble de la personnalité ou la sociopathie, c'est du pain béni pour un scénariste,
c'est vrai. En revanche, une maladie beaucoup moins traitée, je vais enfin pouvoir passer à la série pour laquelle je voulais faire ce podcast.
Ah, Stéphane, voilà. On est là pour
rien. Je te fais l'honneur. Bravo. Voilà.
Oula, alors, donc c'est Pure, une série britannique qui vient de commencer il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça raconte l'histoire de Marnie, une jeune femme d'une vingtaine d'années, tout le temps sollicitée par des pensées intrusives qui sont de nature pornographique. Hein, on va clairement oui. pas se mentir. D'ailleurs, les images qui nous sont projetées un peu dans la série pour nous mettre dans la tête de Marnie sont assez suggestives. Et voilà, donc à un moment donné, un jour, elle franchit un cap dans cette maladie-là. Enfin, on ne sait pas. Pour l'instant, elle le ne sait pas qu'elle a une maladie. Voilà. Elle imagine ses parents avoir des relations sexuelles, pas forcément en plus entre eux. Quoi.
Là, c'est... Bah, disons-le clairement. Hein,
non, il y a sa mère ouais. qui elle s'imagine ouais. sa mère en train de venir l'embrasser. Donc, et là, elle pète une durite, elle quitte l'Écosse, là où elle habite, et elle prend un car direction Londres pour s'installer dans une ville où c'est qu'elle va se perdre parmi les gens, parce qu'elle vit dans un tout petit village, et imaginer tous les gens qu'elle connaît en train de coucher ensemble, ça la perturbait vraiment. Donc, elle préfère voir des inconnus, donc elle part à Londres, et là...
Elle va essayer de trouver ce qu'elle a, bien sûr, de comprendre ce qui lui passe par la tête. Ça passe par une sorte de quête d'orientation sexuelle. Ensuite, elle se dit qu'elle est peut-être juste accro au sexe ou ce genre de choses.
Ouais.
Mais alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce trouble. Du coup, c'est la phobie d'impulsion. Je trouve que c'est épatant parce que donc ça fait partie en fait de la famille des TOC.
Des troubles obsessionnels compulsifs.
Pardon. Et en fait, ce sont donc, comme Stéphane l'a dit, des pensées qui n'arrêtent pas, quoi, qui rentrent, qui vous viennent à l'esprit et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Donc, en fait, les TOC, ce n'est pas seulement « Oh là là là, je me lave 10 fois les mains », quoi. Ou « Oh là là, je dois essuyer la poignée de la porte 50 fois, j'en sais rien ». Et je pense que chacun d'entre vous a déjà eu des pensées de style « Punaise, j'aimerais bien pousser cette personne sur la voie » ou « Oh là là, j'aimerais bien couper les cheveux à machin ». Non, ça ne vous est jamais arrivé.
Tellement dépensé, d'accord.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quasiment 0% de chance que vous actiez sur ces pensées-là. Donc les gens...
ou alors on est très malin, on a réussi à cacher les corps, hein, mais ça, on ne te le dira pas à qui. Hein.
Je ne saurais rien.
Non, pas de confession dans ce podcast.
Et en gros, à elle, il lui arrive, elle voit plutôt des pensées à caractère sexuel, effectivement. Ça l'empêche de vivre, tout simplement. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est comment on voit à quel point ces pensées peuvent être intrusives, en fait. Alors, je ne sais pas si toi, Stéphane, ça t'a un peu. Je suppose que ça t'a dérouté aussi, parce que c'est fait pour. Moi, ça met hyper mal à l'aise à chaque fois qu'elle a une. Que nous, on voit sa pensée.
Tu regardes les premiers épisodes, enfin les deux, enfin au moins le pilote, tu es tout le temps agressé par des images, donc tu te passerais bien de voir des vieux en train de se lécher, enfin bon bref, c'est des flashs qui te viennent dans la gueule alors que tu demandes rien, quoi. et pour le coup, t'arrives à beaucoup à te mettre dans la peau de Marie, ouais. Et c'est là où tu te dis qu'elle doit souffrir et que t'es bien chanceux que ça ne t'arrive pas, quoi. Honnêtement, pour le coup, c'est assez prenant et poignant et j'ai trouvé ça assez... Et aussi
réaliste, en fait.
Ouais,
c'est
voilà,
hyper
c'est ça.
Réaliste,
et,
ouais. Je trouve.
Et la réalisation est d'ailleurs assez maligne là-dessus, hein, pour le coup, parce qu'elle arrive à te faire sentir des choses que tu n'as pas envie de sentir. Quoi.
Vous vous en doutez, hein, c'est inspiré d'une histoire vraie, enfin, c'est adapté d'un bouquin, et donc c'est très, très réaliste. En
fait. Alors, par contre, je me suis renseigné un peu, parce que j'ai essayé de voir si l'actrice était la scénariste aussi, bon, enfin, moi, oui. ça n'a aucun rapport. Mais donc, le personnage dont c'est inspiré, Rose Cartwright, donc elle a écrit un article, un livre, et puis donc il y a la série maintenant, là, elle vient de lancer un mouvement pour la santé mentale. C'est de quoi elle parle. Et en fait, il y a bien une dissociation entre son histoire à elle, à Rose, et ce que va vivre Marnie. En fait, c'est pas trop du tout les mêmes choses. Quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas diagnostiqué. Enfin, ça te touche pas dès l'enfance, en fait. Ça peut survenir un peu plus tard dans ta vie. Bah, donc, pour le coup, chez Marnie, c'est... ce jour fatidique où elle a la vision de sa mère. Ouais, donc ça
pouvait... Oh, mais elle l'avait
déjà. Voilà. Ouais, ouais. Mais c'était un peu plus gérable, on va dire.
Voilà. Ouais, oui, clairement.
Bref. Moi, ça m'a fascinée. C'est surtout, je pense, ce toc-là qui m'a vraiment fascinée.
Donc, d'être été fascinée par les gens qui voient des images sexuelles.
Alors, pas forcément les images sexuelles, mais toutes ces pensées. D'ailleurs, j'ai écouté un podcast là-dessus récemment. C'était assez... c'était une coïncidence. C'était un transfert et ça s'appelait « À quoi tu penses ?» dirais, sûrement. Et le témoignage du mec était assez troublant aussi. Bref. regardez cette série en tout cas. Quand vous aurez regardé, vous pourrez dire tout ce que vous voulez, mais vous crierez au génie.
D'accord.
Voilà. Dans le style. En fait, ça m'a un peu fait penser à Fleabag dans le ton. Je ne sais pas si pour toi ça fait la même chose, Stéphane.
Elle n'est pas consciente du tout de son mal-être et de ce qu'elle essaye de, enfin, puisqu'elle essaye de changer, d'essayer d'expérimenter des choses pour essayer de comprendre. Mais non, Fleabag, elle est assez cynique, alors que Marnie, elle l'est pas du tout.
Quand dans Fleabag, elle s'adresse à la caméra, c'est comme si on voyait les pensées de Marnie, tu vois. Donc en fait, elle s'adresse un petit peu à nous. Enfin, on a ce lien spécial avec le personnage.
Ah. Donc oui, parce que tu considères que les visions, c'est un lien spécial avec... ouais, d'accord, ok. C'est original, mais d'accord. Mais ouais.
Dis oui. Elle aime beaucoup cette série, dis oui.
Alors oui.
Ok, merci. Bon, bah, merci en tout cas. Je pense, oh, on a bien bouclé ça en presque une heure, moins d'une heure, ce que le chef nous a demandé. Voilà. Bah, merci en tout cas à vous. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter pour la fin?
Moi, je voulais parler de Michael J. Fox qui, du coup, lui, il a dû arrêter sa carrière par rapport à son, du coup, ses tocs, qui avait, mine de rien, sur ses retours ou ses caméos, qui avait vachement mis justement les tocs en avant jusqu'à en faire sa propre série, The Michael J. Fox Show. Il n'a malheureusement pas marché.
Il a pas la maladie de Parkinson.
Il a Parkinson.
Non, oui, voilà. je pensais toc parce qu'en fait dans ses caméos il commençait à jouer des gens malades comme justement dans Scrubs où il jouait quelqu'un qui avait des tocs justement.
Ouais.
Moi je suis content que ce soit les acteurs qui en souffrent eux-mêmes ou que ce soit les séries, je suis content que les maladies ne soient plus des sujets tabous et sont de plus en plus répandues. Même jusqu'à avoir des maladies un peu spéciales qui voient des images de sexe et quelqu'un.
Il n'y a pas y avoir un effet de mode aussi. Est-ce que ça va pas être...
Mais c'est pas un effet de mode
de
donner de la visibilité.
Non, mais
enfin, c'est comme si tu disais la diversité, c'est un effet de mode. Quoi.
Non, t'auras jamais d'effet de mode parce que c'est pas des séries qui font des cartons d'audience. C'est pas une série médicale, tu vois, c'est pas un genre qui va faire que maintenant tu vas avoir plein de séries sur les zombies ou des conneries comme ça. Ouais. Je pense que c'est hyper sur ces séries-là et ça se voit d'ailleurs quand ils essayent d'élargir un peu le spectre, ça marche quand même beaucoup moins bien. Donc non, je préfère ce truc sur un effet de mode particulièrement.
Tu parlais de The Good Doctor, pour le coup, les audiences sont très... Je ne connais pas les chiffres parce que je suis nulle en chiffres, mais elles sont plutôt élevées, quoi.
Oui, mais là, c'est parce que là, tu parles d'une série médicale. Série médicale, ouais. Ça fonctionne toujours, qu'ils soient autistes ou pas.
Mais il y a eu pas mal de tentatives. Vous vous rappelez de la série avec Kelly Reilly aussi, où elle avait un problème aussi. Je ne me rappelle plus ce qu'elle avait comme maladie mentale. Non, vous ne voyez pas, j'ai oublié le titre de la série, donc ça ne vous aide pas
above
beaucoup.
Suspicion.
Non.
Ah oui, c'est le truc tout chelou là, mais que j'avais pas regardé.
Elle était neurologue ou un truc comme ça.
Oui, c'est ça, elle était neurologue.
C'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai.
Ça n'avait pas marché en tout cas, voilà. Donc, je pense que pour le moment, il y a quand même certains troubles qui sont plus montrés que d'autres, plus populaires que d'autres, on va dire.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi de tous les troubles qui concernent la nourriture. Je pense à My Mad Fat Diary où là, c'est traité de manière enfin, j'allais dire génialissime, c'est peut-être pas le terme pour un tel sujet, mais c'est vraiment super bien traité.
D'ailleurs, c'est vrai, en effet, il n'y en a pas beaucoup de séries qui parlent de ce sujet-là. Un peu This Is Us dans le truc un peu grand public qui le fait, en plus avec... moi, j'ai oublié le nom de la... Putain, mais je suis vraiment pathétique ce soir. Mais avec la copine de Chris, là, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, Chris, déjà. Kate, la copine de Kate, la toute fine qui va chez les...
La copine,
la femme de Dan Fogelman, quoi, voilà, quoi.
Ah, je ne savais pas, ok.
Oui, c'est sa femme, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire une histoire avec Justin Hartley, parce que ça le faisait chier de les voir ensemble. Bon.
Oh là là. Dans Bunhead, c'est... Non, c'est pas Bunhead, c'est... Attends, est-ce que la gamine dans The Affair, ou c'est dans Bunheads où elle était anorexique, ou pas du tout?
Dans Bunheads, elle fait vachement gaffe pour la danse, la brune, là.
Oui, c'est ça, mais on soupçonne qu'il y a quelque chose d'autre derrière.
Oui, clairement.
Bon, donc vous aimeriez plus voir, enfin, quel type de troubles vous aimeriez plus voir, donc alimentaire.
Je sais pas si la formulation est bonne. Quel trouble j'aimerais bien voir
en ce moment. Non, mais plus de souffrance à la télé, on en a marre des comédiens.
Plus de visibilité.
Oh merde, tu crois que le monde il est bon? Non, alors.
Non, mais moi,
on veut de la guerre civile. Nous, on veut de la guerre civile. On veut de la guerre mondiale. Nous, on veut des trucs super chauds, quoi. Tu vois, c'est. On veut des mères qui viennent
en bonne santé dans les séries. Merde.
On en a marre des gens beaux et tout. Oh non, moi je supporte plus. Hein.
La seule chose que moi j'aimerais bien, c'est que ce soit des acteurs qui ont. On parlait de représentativité. Ben, pour
représentation, en fait, tu peux dire, Stéphane, sinon.
Représentation, ben, si tu veux. Que des acteurs qui, ben pour le coup, atypical, pour le coup, j'aurais bien aimé que ce soit un acteur autiste, tu vois.
Mais alors, sans vouloir paraître insensible, mais est-ce qu'il en est...
Je suis d'accord avec toi.
Non, mais parce qu'à un moment donné, il y a aussi cette question-là, comme l'homosexualité, où tu vois les acteurs... là, il y a vraiment quelque chose de mental. Est-ce qu'un autiste peut comprendre quelqu'un d'autiste peut connaître la différence entre la réalité et le jeu?
Alors oui, mais alors moi après c'est totalement un autre débat, mais je pense que la représentativité, oui, d'un côté c'est bien d'avoir un autiste pour jouer un autiste. Après derrière, faut faire attention, faut pas. Je sais que certains acteurs le réclament, mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi te dire t'es autiste, alors tu vas jouer un rôle d'autiste? Alors qu'il pourrait peut-être jouer un autre rôle. C'est hyper compliqué la représentativité et c'est un sujet que je trouve hyper délicat. Moi personnellement, que ce soit autiste ou pas, tant que la série le traite bien, ça me gêne pas. Après, moi bon, là on parle d'autisme, mais qu'il y ait plus d'autistes en tout cas à l'écran, bien sûr, tout à fait. Après, qu'on les mette parce qu'on est un autiste parce qu'on a écrit un rôle d'autiste, c'est comme te dire tiens, je te mets, j'ai écrit un rôle de noir, alors mets. Pour un noir, tu vois, enfin, je sais pas, ça hyper tendancieux comme truc.
Je rejoins Marina dans ce qu'elle a dit sur est-ce que ils sont, c'est horrible de dire ça, mais est-ce qu'ils en sont capables du coup par rapport à leur perception.
Écoutez celui qui travaille sur Europe 1, qui a une émission à lui et qui est autiste et qui sait parler de sa maladie comme il faut et qui sait en parler.
Il est hautement fonctionnel.
Je pense pas qu'il le soit autant que tu penses qu'il le soit. Hein.
D'accord.
C'était vraiment une question de néophyte, pour le coup, c'était vraiment une question pas du tout insensible, c'était réellement, je me posais cette question-là, savoir, moi je suis pas du tout dans le truc médical et encore moins dans ces maladies-là, mais du coup je me posais effectivement la question, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être, comme ils sont malades, peut-être comme les enfants, ils peuvent pas tourner longtemps, des choses comme ça, voilà, et du coup, est-ce que effectivement mettre une série sur les épaules d'une personne, par exemple autiste, qui peut pas travailler, je te dis une bêtise, genre plus de 3 heures par jour, est-ce que au niveau de la production, des choses comme ça engendre pas des trucs financiers derrière
Tu choisis l'acteur. Je veux dire, par là, c'est qu'il y a différentes formes d'autisme. Les mecs vont pas prendre l'autiste qui justement lui n'en est pas capable. Je veux dire, c'est comme je disais, je prenais l'exemple de la trisomie 21, qui du coup ils ont certains talents et d'autres, enfin, à des endroits ils pas à d'autres. Je sais pas, moi, si le mec est pas du tout n'est pas du tout dans la comédie, ils vont pas le prendre en tant que dans un sous grand écran.
Oui, le but c'est d'avoir le choix en fait, d'avoir cette option là, je suppose. Mais c'est vrai que si on est un peu plus cynique avec une casquette de producteur, je suppose que on aurait des raisons d'hésiter. Ouais, c'est pour voir, c'est l'offre et la demande hein, après. Voilà. Bon, bah merci.
Déshabillé,
tu conclus alors, d'accord, ok.
C'était assez intéressant, merci. Voilà, c'est une meilleure conclusion. Donc, je redis un coup, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Marina, c'est plus dans l'ordre alphabétique parce que j'ai perdu la liste. Alan, Maxime, oui, Stéphane et moi-même. Voilà, voilà.